avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Pour bien démarrer cette nouvelle année 2017, je vous propose de tomber dans la marmite des cuisines mal connues. Laissez tomber les pizzas, les hamburgers ou autres nouilles chinoises. Poussez les portes avec nos invités pour découvrir des recettes, des cultures culinaires discrètes, voire dans l'ombre d'un pays voisin, mais pas moins savoureuses. Bonjour Ouri Danekash.
Bonjour.
Vous nous proposez un voyage culinaire avec Algérie gourmande. Tout se passe dans la cuisine d'Ouri. C'est un très très beau livre où il y a à la fois des recettes, des récits, beaucoup de souvenirs d'enfance aussi. Bref, ça donne très très faim, je peux vous dire, quand on vous lit. Vous êtes par ailleurs professeur de sociolinguistique à l'université de Oran et vous êtes de passage à Paris pour quelques jours.
Pour 10 jours.
Merci d'être avec nous. C'est dur de mijoter à côté du géant marocain des fourneaux avec ses célèbres tagines dans le monde entier. Je commence par une question qui fâche. D'emblée, je vais mettre les pieds dans le plat.
Ça ne me fâche pas du tout, non. On mijote, mais il faut qu'on se fasse connaître. Donc voilà, c'était la tâche de mes amis Claire et Renaud Marca et la mienne, de faire connaître cette cuisine si variée.
Illustrateur, globetrotteur, qui vous ont suivi, c'est ça.
Voilà,
ou
que j'ai suivi peut-être aussi, parce qu'ils m'ont fait découvrir beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est une cuisine qui est très variée, très riche, qui gagnerait à être connue. Elle est très peu connue. Et donc,
vous êtes là pour ça. Voilà. Vous allez relever le défi. Sarah Nili, bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes cambodgienne à la tête du restaurant La Mousson à Paris et puis vous avez publié aussi un livre de recettes, La Table du Cambodge. Vous, c'est le voisin vietnamien qui vous étouffe un peu quand même culinairement parlant.
On a le vietnamien, le thaïlandais et le chinois aussi.
Ça fait beaucoup, c'est dur d'exister.
Parce que nous, on est un petit pays et on est entouré de ces grands pays.
Et pourtant, on mange rudement bien. Je peux en témoigner, nous étions il y a quelques jours avec Romain Dubrac au Cambodge. Les auditeurs ont suivi nos émissions et c'est une cuisine extrêmement savoureuse, très parfumée, avec de très bons restaurants. Celso de Freitas, restaurateur brésilien, chef de cuisine, bonjour.
Bonjour à tous, moi j'ai Manuel.
Votre restaurant, Gabriella, dans le 9e arrondissement à Paris. Vous êtes à Paris depuis
19 ans.
Presque 20 ans, c'est ça.
Oui,
pas très connue la cuisine, la gastronomie brésilienne.
Ouais, c'est vrai en fait. Parce qu'en fait, il y a la cuisine péruvienne, la cuisine surtout mexicaine. C'est très connu, mais la cuisine brésilienne, c'est vrai que c'est méconnu.
Vous avez des tacos ou pas d'ailleurs ?
Non.
Pas du tout. C'est ça. Donc vous êtes là tous les trois pour déconstruire nos idées reçues et puis surtout balayer nos ignorances et surtout nous faire changer d'avis sur vos cuisines méconnues. Et puis en fin d'émission, on sera toujours sur le thème du voyage culinaire, mais ô combien d'actualité. Reportage d'Alice Milo sur les cuistots migrateurs. C'est le nom d'une start-up parisienne qui embauche des réfugiés pour préparer des plats typiques de leur pays.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins et la planète se barre.
Ouri Danekash, Sarah Nili, Celso de Freitas. Alors pourquoi tous les trois défendre les couleurs et les saveurs de vos cuisines finalement, Ouri Danekash?
D'abord parce que c'est une cuisine, vous l'aviez dit, qui n'est pas connue du tout. Pareil, au Maghreb, on connaît plus par l'ouverture touristique la cuisine marocaine. La tunisienne un peu moins, mais quand même, elle est assez connue. Et la cuisine algérienne, pas du tout. Alors qu'il y a une histoire, et puis elle est raffinée, elle est variée, elle appartient vraiment, il n'y a pas une cuisine, mais des cuisines algériennes. Une cuisine du sud, de l'ouest, de l'est, du nord. Donc vraiment, c'est très varié, très bonne, délicieuse, raffinée même. On peut parler de la gastronomie algérienne, mais effectivement très peu connue en France et j'imagine d'autres pays aussi.
Des points communs avec la cuisine marocaine tout de même?
Sûrement, bien sûr.
Bon, les produits, bien sûr.
Les produits, on a bien sûr, c'est ce bassin méditerranéen. Il y a un ADN commun, donc le blé, l'huile d'olive, le vin, toutes ces choses avec le soleil. Mais aussi, il y a des plats selon... Voilà, les frontières, comme partout, la Tunisie, l'Est algérien, il y a des plats communs. Et puis entre l'Ouest algérien et le Maroc, sûrement il y a des... que ce soit des plats et des épices utilisées qui sont communes. Mais c'est vrai qu'il y a une cuisine particulière algérienne qu'on ne trouve pas ailleurs.
Les couleurs, les saveurs aussi de vos cuisines, les uns et les autres, est-ce que c'est finalement toujours relié à votre enfance, Celso de Freitas?
Ah oui, carrément. Parce qu'en fait... J'étais toujours gourmand, surtout pour les choses sucrées.
Vous êtes d'où, vous, au Brésil?
À Santos. Oui. Santos, c'est dans l'état de São Paulo. Mes parents sont portugais. L'image du Brésil, en fait, c'est une cuisine qui a été influencée par les techniques européennes. les navigateurs, en fait, sont arrivés au Brésil, ils ont été étonnés de ne pas trouver des céréales ni de vignes. Donc ça veut dire pas de pain, pas de vin. Par revanche, en fait, ils étaient étonnés par cette population indigène qui apportait tous leurs soins à une racine qui s'appelait le manioc. Et le manioc, c'est une racine brésilienne. Malgré ce qu'on pense que c'est africain. En fait, le Brésil,
attention,
c'est
le... vous mettez les pieds là, parce que
oui,
les
non,
auditeurs en Afrique vont avoir des réactions.
Non, non, c'est sûr. En fait, le Brésil, c'est le plus grand consommateur. Deuxième plus grand producteur, le premier, c'est le Nigeria. La racine du manioc, c'est brésilien, c'est d'origine indigène. Et après, avec les échanges entre les navigateurs, entre l'Afrique et le Brésil, la racine a voyagé. Elle est partie en Afrique, ouais. Et l'Afrique, elle a tout le climat, en fait, pour produire ce produit. Il s'est devenu un peu la base de la cuisine africaine, ouais. Également.
Alors, je vous interrogeais sur votre famille, vos origines, oui. Votre enfance, etc. Et vous me parlez des navigateurs, oui, oui. C'est vraiment bien. Mais finalement, mais qu'est-ce qui fait que vous, vous avez eu envie de cuisiner? Ça vient de votre maman,
oui, oui,
et de défendre les couleurs de votre cuisine.
Ouais, je pense qu'au Brésil, on a tous le pied dans la cuisine. On est tous un petit peu critiques, ouais. Culinaires, je ne sais pas. Mon père, c'était un grand cuisinier, en fait, dans la famille. Mais en fait, mon père, il organisait des événements, des fêtes, en fait. Souvent, à la maison, ça sentait la nourriture. Portugais, méditerranéen, ça sentait les herbes, la coriandre, ouais. Persil, cumin, citron vert, voilà.
Ouais. Vous auriez presque pu répondre la même chose, finalement.
Ah bah oui, par la coriandre, je dirais vraiment cela.
Ouais. Et vous, Sarah Nelly, aussi, la coriandre?
Oui, on utilise beaucoup de coriandre, les graines de coriandre. Ça fait partie de nos épices.
Et vous, alors, comment vous êtes tombée dans la cuisine, dans la marmite?
Mes grand-mères, les deux côtés, mes tantes, et en particulier ma mère, elle a eu la chance d'être élevée, si je puisse dire, au Palais Royal, auprès de Somdak Kanita, qui est une des grandes gastronomies cambodgiennes au Palais Royal. Donc ma mère a appris toutes les recettes du Palais Royal.
Oui.
De mère en fille, elle nous a transmis le savoir-faire. Et justement, je voulais apprendre aux gens qui sont ici pour pouvoir faire la cuisine cambodgienne qui est mal connue en Europe et en particulier en France.
Est-ce qu'au Cambodge, c'est aussi une histoire de femmes, par exemple comme en Algérie, la cuisine cambodgienne?
On a aussi des cuisiniers hommes, mais c'est vrai, la grande chef sont des femmes. Et chez nous, les grandes réceptions se passent à la maison. On ne va pas au restaurant. On fait venir le chef cuisinier à la maison, supervisé par la maîtresse de maison tout le temps. Oui. Et on fait des réceptions à la maison.
En Algérie, ça serait assez mal vu, ça, non, de faire rentrer quelqu'un à l'extérieur, en dehors du cercle familial.
Oui, non, mais vraiment, c'est une affaire de femmes en Algérie. Ce sont les femmes qui cuisinent. On trouve maintenant peut-être quelques hommes qui font un peu des émissions télévisées.
Vous avez Top Chef, vous avez l'équivalent.
Voilà, un peu l'équivalent, mais ça reste une cuisine de femmes, familiale. Les femmes cuisinent seules, même pour une tablée de 20 personnes. Ça ne nous dérange pas du tout. Moi-même, je le fais, mais c'est vrai que c'est une question de femmes.
Un dicton que vous entendiez vous-même souvent à la cuisine quand vous étiez petite? Je crois qu'au début, vous n'aimiez pas beaucoup les corvées des pluches.
Non, je n'aimais pas trop la cuisine. En fait, moi, j'ai grandi dans une très grande famille. On est 7 enfants. J'ai vécu avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Donc, cette cuisine, pour moi, où sifflaient les cocottes à partir de 7h30 et 8h du matin, c'était un peu... Et puis, voilà, je le disais, c'est un peu la cour des miracles. Il y avait trop de monde, trop de choses, trop de légumes, trop de vaisselle. Et je fuyais un peu cet endroit qui m'effrayait avec toutes ces... Mais par contre, les odeurs s'imposaient à moi. Elles étaient là. J'adorais rentrer de l'école et sentir, et en deviner un peu ce qu'il y avait à manger. Et donc, voilà, des années après, j'ai cherché vraiment ces odeurs dans tout ce que je faisais, et j'ai recherché je voulais trouver cette réminiscence à travers les odeurs des plats que j'ai mangés enfant.
Alors un dicton que vous avez
de ma grand-mère,
entendu.
Alors
oui, que vous avez
je vais le dire
entendu.
D'abord en arabe,
oui, allez-y.
Alors c'est Aïd Fizin Knondor ou Aïd Filahma Knondor ou Rini Kashmefi Dik. Ça voulait dire un jour, si j'ai un mari que je saurais mal cuisiner, il va me dire de toutes les façons, j'ai beau te regarder, j'ai beau te tripoter, mais montre-moi un peu ce que tu as dans les mains. Donc voilà.
Et pour vous, c'est le son des fritas?
Je pense un peu pareil. En fait, ça m'effrayait un petit peu, toutes ces préparations, j'aidais pas, en fait, j'ai participé pas. Et après, je ne peux pas expliquer, je pense qu'un jour, ça éveille. Voilà. Ça éveille.
Il y a un dicton que vous avez entendu autour de la cuisine, devant les
fourneaux. Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas si joli de l'été.
Ça serait quoi? Allez-y, on est
en portugais, c'est un peu... Je ne sais même pas d'ailleurs ce que ça représente. Ça veut dire « a conversa ainda não chegou na cozinha ». Ça veut dire que si on... c'est en fait, si on commence à discuter entre nous, il y a quelqu'un qui s'approche, je dis « ça veut dire que la conversation... elle n'est pas encore dans la cuisine. Et je ne sais pas d'où vient le sens, mais on dit ça.
Oui.
Quand on veut envoyer quelqu'un, on est en conversation entre deux, il y a quelqu'un qui arrive.
La cuisine, quoi.
Voilà, on dit, voilà, la conversation, elle n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas pourquoi on dit la cuisine, en fait, mais c'est bizarre.
C'est intime, on n'est pas assez intime pour que tu puisses pénétrer dans la cuisine.
Mais
parce que
on dit
nous,
ça, ouais.
Chez nous, on le dit, c'est, il est tellement intime, cette personne est tellement intime qu'elle rentre jusqu'à dans ma cuisine.
Ah, voilà, vous dites ça aussi
Oui, par rapport à l'intimité.
Ah, d'accord.
Celui-là, il est trop la telle cuisine.
Ah, on dit ça. Ben voilà.
Donc, chez vous,
on a un peu de brésilien en nous.
Voilà.
Pour moi, c'est pareil. Corvée, surtout pour après. Mais moi, j'aime bien cuisiner.
Vous voulez dire ranger, nettoyer.
Voilà. C'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais que faire venir un chef, il fait ce que la maîtresse de maison lui dit de faire.
Ah, c'est un, voilà. C'est de l'aide.
Voilà,
ah,
plutôt.
D'accord.
Et alors, un dicton. Vous avez entendu des dictons en cuisine, dans votre famille, dans votre enfance?
Oui, quand j'étais petite, ma mère me disait Alors, moi, je ne comprenais pas le sens vraiment, mais si on le traduit, ça veut dire que si on veut bien manger, il faut un mélange, je ne sais pas, un tour de main des chefs custos faits avec
amour.
Voilà.
Oui. Voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment même pour nous parler de vos cuisines méconnues, Algérie, Cambodge, Brésil. C'est une petite rencontre entre nous pour les voisins. خلوي مع راسي طليت من البالكون وتريب ساسي وشفت حمامة مدبلت الريام خنا على الخد ونديري خارجة من المنام حبات نجري وما بقى لي بل ورميت الكلاكات وخرجت بالعجال حبت للحومة وقتي مس الخير شفتك من الفوقية وحبيت نطير أنا مسخر خلوي خطيها لمساسك ضني النميرو دبري راسك قالت لي سي سينيور قالت لي فور فافور قالت لي خلينا نروقو بيرو اسم ميخور قلت لها محيني انا سبنيول في الحومة وداير حالة ماريا ماريا وش جابك للحومة يا القورية ماريا ماريا واذا تحبينا ابد فيا ماريا ماريا وش جابك للحومة يا وبديت الفيسبوكي بالأمازون وسكايب تما ناتريني وجدتك ورطي ودفعت الفيزا غير ادعي لي يا يما لا عزيزة عشيت طوندي ونستنى في اليامات حبيبي الكونسول عطينا شي خبارات وجات البرية وانا داير لاسياس اجري يا يما الفيزا جات اليلة اليلة يا ماريا ماريا وش جابك للحومة Maria Eldei chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons de ces cuisines méconnues, souvent écrasées par leurs voisins, Algérie, Cambodge, Brésil. Vous nous parliez des origines, de votre goût, de votre appétit pour faire connaître vos cuisines respectives, Orida Nekash, Sara Nili, Celso de Freitas. Alors, bien sûr, vous vivez dans des pays très diversifiés, avec des cuisines régionales. C'est compliqué pour vous de parler, alors, tantôt d'une cuisine nationale, tantôt de cuisine régionale.
Oui, bien sûr, en Algérie, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait qu'il y a des cuisines algériennes, plusieurs cuisines.
Qui cohabitent d'ailleurs,
très bien. Qui cohabitent, algériennes. Moi-même, je fais de la cuisine un peu algéroise, un peu de l'Est, parce que je fais du couscous au Mérou, qui n'est pas très connu d'ailleurs en France, mais qu'on fait à l'Est de l'Algérie, et que moi, je reproduis, parce que j'aime beaucoup ça, à Oran. J'ai donné la recette à beaucoup de personnes, mais ce qui est plus difficile...
Ça veut dire que ça, à Oran, on ne sait pas cuisiner comme à Alger, souvent.
Au fait, ce n'est pas la même cuisine, on n'utilise pas les mêmes épices. Certaines choses, en fait, comme la chorba, la soupe... que ce soit vermicelle ou mkatfa, c'est avec une sorte de cheveux d'ange, il y a certaines choses qui changent et c'est très varié. C'est ça qui est dans la richesse vraiment.
C'est dû à quoi ? Aux produits,
aux produits, aux influences. Mmh. À Oran, on est très influencé par les Espagnols au XVIe siècle, les Ottomans aussi. À l'Est, les Italiens, ils cuisinent beaucoup la pâte et les pâtes. Donc, c'est vraiment une influence italienne. Et puis, l'Algérois, c'est aussi une influence ottomane. Et vous avez le Sud avec l'Afrique. Et ils font beaucoup de choses avec des épices qui viennent d'Afrique et des produits, des racines qui viennent d'Afrique. Mmh. Donc, c'est très varié.
Et pour vous, Sarah Nili, sur les régions, il y a de grosses différences au Cambodge ?
Oui. On a par exemple l'incontournable plat dont vous parlez, le hamok. Dans certaines régions, il y a une petite différence. Par exemple, à Siem Reap, la façon de préparer le hamok est différente de celui de la capitale.
Qu'est-ce qui est différent ? Les produits, les épices ? Le hamok, c'est une espèce Si je dis un curry, vous allez m'incendier. Mais on va donner des recettes tout à l'heure après le flash, histoire de vous mettre en appétit.
Avec plaisir.
Mais sinon, la différence, ça tient à une poignée d'épices différentes.
Oui, oui. Et puis le goût. Parce que chez nous, on utilise beaucoup, beaucoup d'épices et des herbes aromatiques. Et chaque région enlève une partie de ces herbes-là pour différencier.
Ouais. Et pour vous, c'est le Sodé Freitas ? Dans ce si vaste pays qu'est le Brésil.
Oui, alors en fait, le Brésil, c'est un peu triste à dire parce que moi, je viens de São Paulo et on mange des kiwis, d'oranges. Et on est au Brésil et en fait les fruits viennent du nord et de chez moi jusqu'à Belém, c'est 4 heures de vol. Ça veut dire que quand on mange un cupuaçu, que c'est un fruit brésilien, un açaï, on dit que c'est exotique. Mmh. Et c'est pas exotique, c'est le fruit de notre pays. Donc c'est bizarre
c'est
à dire ça.
C'est
donc les cuisines sont assez variées. Le Brésil, la cuisine de Bahia, c'est une cuisine touchée par l'Afrique, donc il y a beaucoup d'huile de palme, lait de coco, et c'est un peu épicé, c'est complètement différent de la mienne. Donc en fait, c'est un pays grand, vaste, et en fait, c'est forcément culturellement, au niveau de la nourriture, il y a une différence vraiment énorme.
Alors on va donner des recettes bien précises, bien pratiques pour nos auditeurs, juste après le flash, mais dans vos cuisines respectives, quels sont les ustensiles incontournables pour cuisiner ? Parce que souvent, on oublie que la base, c'est quand même la batterie de cuisine. Pour vous, Aurida Nekash, ça serait quoi ?
Alors, une cocotte minute, d'abord, ouais. Vraiment. Un tagine en terre cuite.
Donc une cocotte minute, ça veut dire en fait un autocuiseur.
On a une cocotte minute, oui, c'est un autocuiseur. Un tagine rond avec un couvercle rond
en terre
pour faire des poivrons et des petites ratatouilles à la shakshuka et les poivrons grillés, flfla, et puis une râpe à fromage, mais une râpe pour extraire vraiment le suc des tomates et des oignons. Je cuisine vraiment tout le temps avec ça.
C'est ça, pour faire une espèce de purée indéfinissable,
oui,
cette râpe.
Voilà, et ça donne autre chose quand c'est utilisé avec une râpe que quand on les coupe, c'est pas pareil. Donc pour moi, c'est cela.
D'abord, bien cuisiner, déjà, ça commence par la maniaquerie, finalement. Non, et ça, chacun ses petites habitudes. Pour vous, Sarah Nili, ça serait quoi ?
Le mortier, parce que nos épices, on les pile. Mais ici, comme ça fait du bruit
vous voulez pas casser la tête de vos,
non,
de vos
surtout,
clients dans le restaurant.
Non, c'est pour surtout nos voisins qui. Je remplace par le mixeur.
Un moulin,
voilà.
C'est ça.
Mixeur,
mais finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que piler par exemple du poivre, le fameux poivre de Kampot au Cambodge, c'est pas la même chose que de le mettre dans un moulin à poivre parce qu'il est trop broyé.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que vous voulez nous dire.
Oui. Ouais.
Et puis bien sûr, un autocuiseur, ça peut servir pour le riz, non, quand même.
Le riz et puis à la vapeur. Beaucoup de plats qui sont à la vapeur, comme le fameux hamok. C'est une sorte d'estouffade de poisson.
Alors justement, c'est cuit dans quoi, cette estouffade dont vous allez nous donner la recette juste après le flash ?
On fait des cornets dans des feuilles de bananier et on fait déjà le mélange. Après, on met dans les cornets qu'on a confectionnés auparavant et on le fait cuit à la vapeur.
D'accord. Donc à la
vapeur, l'étouffer.
Dans un cuit vapeur, c'est avec de l'eau en dessous,
voilà,
et un
exactement.
Panier au-dessus.
Oui.
Hein, c'est ça. Ouais. Et pour vous, Celso de Freitas, il y a un ustensile indispensable ou pas dans la cuisine brésilienne ?
Un couteau bien aiguisé.
Vous restez avec nous tous les trois, Aurida Nekash, Sarah Nili, Celso de Freitas. On rend l'antenne pour le flash et dans 3 minutes, on se retrouve. On fera comme si la marmite était pleine ou prête, avec un petit grésillement de quelque chose et un feu vif, ou pas d'ailleurs, juste en dessous. On se retrouve juste après le flash sur RFI, 7 milliards de voisins, ces cuisines méconnues, Brésil, Cambodge et Algérie.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr, sur RFI. C'est la suite de l'émission. La parole est à la défense et à la découverte des cuisines méconnues. Algérie, Cambodge, Brésil. Quels sont les plats de ces pays, des régions? Quelles différences aussi avec des voisins parfois encombrants comme le Maroc ou le Vietnam? Et puis sur le vaste continent sud-américain, vous nous le disiez, Celso de Freitas, et bien sûr, on ne parle toujours que du Mexique et des fameux tacos qu'on ne trouve pas du tout d'ailleurs dans la cuisine brésilienne. Vous nous avez mis l'eau à la bouche tout à l'heure, Ourida Nekash, puisque vous publiez Algérie gourmande. C'est un vrai carnet, en fait, un carnet de route.
Ah, c'est aussi un carnet de voyage. Il y a une découverte des villes. On est rentré dans des cuisines de femmes qui nous ont ouvert leurs portes et leur cuisine et leur cœur.
Et parfois, vraiment dans des localités très peu connues.
Alors, on est parti au Sahara, on a fait l'Est, on a fait Constantine, on a fait l'Algérois. Non, on a bien voyagé.
Les cuisinières, les femmes qui font ces plats savoureux de cette cuisine algérienne, mais aussi des producteurs de bons produits.
Bien sûr, lait, du vin, de l'huile, et c'était très bien de lier tout le monde, parce que l'un n'existe pas sans l'autre, les uns n'existent pas sans les autres, et on a fait comme ça un voyage gastronomique et culinaire à travers quelques villes algériennes.
Sarah Nili, vous avez publié un livre de recettes, La Table du Cambodge, et vous êtes restauratrice d'un restaurant qui s'appelle La Mousson à Paris, et Celso de Freitas d'ailleurs, vous êtes chef de cuisine du Gabriella à Paris également, tous les deux d'ailleurs, puisque Ourida, vous avez la chance d'être à Oran, donc vous n'avez pas de problème pour vous approvisionner, mais vous deux à Paris, est-ce que parfois vous souffrez de ne pas trouver les produits qui conviennent réellement à votre cuisine, Sarah Nili?
Certains produits, oui, et c'est par période. Il y a des fois qu'on ne trouve pas certains ingrédients, et donc je fais venir du Cambodge.
À quoi vous pensez?
Le principal, qui est primordial pour la préparation de base, qui est le prahok, c'est-à-dire une sorte de poisson un peu fermenté. Chez nous, on le mange pur, mais ici, je dilue avec d'autres épices, tout ça, pour la préparation.
Vous le faites venir directement du Cambodge, ce poisson fermenté.
Hein. Oui.
Et puis, bien sûr, tous les fruits frais qu'on trouve là-bas, qui sont délicieux.
Oui, mais ici, on en trouve.
Les mangues, mais aussi des fruits beaucoup moins connus, les mangoustanis.
Des mangoustans, des ramboutans, des bananes, mais des toutes petites bananes, qu'on appelle ça les bananes œufs. Je traduis mot à mot, hein. C'est tout petit par rapport aux bananes d'ici. Et les mangues et toutes sortes de variétés de mangues. L'ananas, très juteux.
Et en général, il a été cueilli pas très mûr. Hein, quand il a mûri dans les soutes des cargos. Et pour vous, Celso de Freitas?
C'est étonnant parce que pour la cuisine brésilienne, je n'ai pas beaucoup de difficultés. Parce que comme la cuisine brésilienne, il y a une influence africaine. Pour ma dernière carte, j'ai fait une sorte de recherche scientifique. Parce que si je mettais le nom portugais pour trouver un français, c'était impossible. Donc je mettais le nom scientifique de la plante et j'ai trouvé le mot en français. Par exemple, il y a une plante qui s'appelle Bread Mafan, qui à Madagascar, ils l'utilisent pour le plat national, qui anesthésie la langue. Et au Brésil, on appelle jambu.
Oui.
Et c'est une plante qui est d'origine péruvienne et brésilienne. Et on trouve dans le plat national de Madagascar.
Oui.
Donc j'ai dit, mais si c'est possible de trouver les jambu,
c'est incroyable.
C'est incroyable. J'étais étonné de trouver dans une boîte de conserve dans le Château Rouge, dans un marché africain, le jambu, une plante amazonienne. Je n'ai pas encore fait un plat avec cette plante, mais par exemple, l'oseille de Guinée, nous on appelle vinagreira. Et c'est un plat au nord du Brésil qu'on fait un riz délicieux à base de vinagreira, qui c'est l'oseille de Guinée.
Donc une sorte d'épinard un peu, hein, l'oseille.
Épinard, mais richesse, c'est la plante la plus riche en fer au monde apparemment. Ça sont l'épinard, et on fait avec des crevettes séchées, avec plein de gingembre, de l'oignon, et on fait un riz très goûteux, mais je ne trouve pas de difficulté en fait. Il y a de l'huile de palme, lait de coco, et on peut emporter aussi du Brésil, certains produits, certains fruits. Donc,
Puis bon, pour le fameux plat national à base de haricots, est-ce qu'on commence par ça comme recette avec vous ou pas finalement?
Je veux faire quelque chose de plus exotique.
Ce sont des haricots secs, donc ça se transporte finalement assez facilement.
Facilement, oui, tout à fait.
Ouais. Comment vous appelez ça?
Feijoada.
D'accord, j'avais peur de mal prononcer. Le plat national à base de haricots.
Haricots noirs, donc à la viande de porc et de bœuf.
Oui.
Bœuf séché.
Pieds de groin, queue et oreilles de porc.
Il y a une différence. En fait, ça, c'est la feijoada complète.
Parce que là, vous allez faire fuir tout le monde.
Non, non, ça, je ne le fais pas. Mais je peux mettre dans ma feijoada, mais juste pour donner le côté, la cartilage des viandes, pour donner plus d'épaisseur, plus de goût. Mais je ne mets pas pour manger, en fait. Mais c'est vrai qu'au Brésil, il y a la...
Vous retirez le cartilage après.
Voilà. Moi, je mets juste le pied de porc. Je ne mets pas de museau, queue, ou ça, je n'aime pas trop. Je pense que le goût, c'est trop fort.
À l'origine, c'est bien présent dans la recette?
On n'a pas une recette officielle. C'est comme on disait tout à l'heure, chaque région fait à sa façon. Et après,
alors,
on fait comme on veut.
Comment on fait un vrai feijoada? Un vrai doux, d'ailleurs, je ne sais pas.
C'est une recette assez complexe, en fait. Et ça prend vraiment très, très longtemps. rien que mijoter l'haricot noir, c'est toute une nuit dans l'eau. Donc 24 heures pour que la cuisson soit optimale. Et aussi pour qu'on enlève le... Parce qu'il y a une sorte de gaz dans l'haricot qui, si on laisse tromper, en fait, toute une nuit, ce gaz, il part.
D'accord.
Si vous laissez tromper dans l'eau...
Plus de désagrément.
Voilà. Il y a une sorte de mousse qui s'installe et on enlève cette mousse. Si on cuit notre haricot...
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a la même recette en Algérie. C'est l'oubia bilkreigne
avec le
haricot blanc.
Oui.
Et avec les pieds de bœuf.
Ah, voilà.
Ouais. Et nous, on ne retire pas, par contre, les pieds.
Ah,
parce qu'on trouve ça délicieux à grignoter.
Ouais.
Et ça donne un côté gélatineux. On mange ça surtout en hiver parce que c'est assez lourd. Mais pareil, on fait tremper les haricots blancs, donc la loubia, toute une nuit.
Oui, on plaît aussi au Brésil qu'on fait ça, qu'on appelle mocotó.
Voilà. Finalement, c'est on est voisins.
Haricots blancs avec pieds de porc. Mais après, on met les saucisses de porc.
Non, c'est des pieds de bœuf.
Ah, de bœuf, ouais.
Ou de mouton.
Oui.
Mais généralement, voilà, on laisse tremper toute une nuit. C'est vraiment exactement pareil.
D'accord.
Avec des céleris. Voilà, c'est les céleris.
Et en fait, en cuisson, le pied devient très fondant.
Ça, exactement.
Ah, oui, oui.
Et la sauce est très lourde, très gélatineuse.
Très
lourde,
gélatineuse,
très bonne.
Oui. Bah, je mangeais en septembre.
Ah, bah voilà. Donc,
j'ai dit à mon père, en rentrant au Brésil, vous faites ça.
C'est un plat qu'on fait beaucoup en hiver. Et c'est exactement ce que vous
assez
dites.
Costaud,
tremper la nuit, assez costaud.
Ouais, c'est étonnant. Hein.
Oui.
Mais c'était des plats, quand même, à l'origine, pour pouvoir travailler dehors. Hein.
Oui, je pense.
Il fallait que ce soit consistant. Il fallait que ça tienne chaud, parce qu'on les fait en hiver. Il fallait. Voilà.
Oui.
Puis ça se mange au fait. Une cocotte, il y en a 10 qui
mangent. Est-ce que vous avez donné vos principaux secrets pour la feijoada, Celso?
Je pense vraiment que c'est la cuisson, parce qu'il faut que ça soit bien, l'haricot soit bien fondu, bien crémeux, parce que l'haricot, il sort une sorte d'amidon, en fait. S'il n'est pas assez cuit, c'est désagréable à manger, je trouve. C'est la cuisson. La cuisson des viandes, parce qu'il faut cuire le pied.
Combien d'heures?
Ça peut prendre 3-4 heures pour faire une feijoada. Une bonne feijoada... Il y a la cuisson de travers de porc, la cuisson de saucisse avec la poitrine fumée, la cuisson de pieds de porc, la cuisson d'haricots. Donc, c'est des cuissons séparées. Après, à la fin, pendant une heure, ça mijote avec tous les épices, avec le laurier, l'ail, l'oignon. Moi, dans ma feijoada, j'aime bien mettre une, deux oranges.
Un petit côté sucré.
On le sent pas, mais il y a quelque chose.
Petite acidité.
Il y a quelque chose.
Ouais.
C'est le coup de sorcier. En fait.
C'est ça. Sarah Nili, alors
vous
allez
parler d'haricots. Ouais. Chez nous, on le fait aussi, mais en dessert, comme disait mon voisin. Il faut cuire assez longtemps, que ça soit bien moelleux. Et chez nous, on le mélange avec du riz gluant et un peu de lait de coco.
Bon, alors question plat principal, Sarah Nili, vous ne partirez pas sans nous avoir donné dans quelques secondes. La recette d'un véritable et délicieux hamok.
Oui.
Hein,
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Hamok, c'est estouffade, ça veut dire. C'est cuit à l'étouffée, quoi. Quand il y a des grandes réceptions, on fait ce plat-là. Et présenté sous plusieurs formes. En général, on fait dans les feuilles de bananier. Et ici, pour diversifier un petit peu, je mets dans des cocos. Vous coupez les noix de coco et vous creusez et vous mettez de...
Ah, d'accord. Donc, ça, vous retrouvez aussi, ça crée une humidité aussi. Puis un peu plus simple que de trouver des feuilles de bananier ici, peut-être en région parisienne.
Non, on trouve aussi facilement, mais c'est pour le décor. Et j'ai déjà fait aussi, j'enlève le cœur d'artichaut et je mets... Comme ça, ça fait très, très décoratif pour présenter un plat.
Ça, c'est cuisine cambodgienne made in chez vous à Paris, on va dire. C'est un peu mélangé.
Oui, pour la présentation.
C'est ça. Mais alors, le véritable hamok, le secret, la complexité, je dirais...
C'est dans les épices. Mmh. C'est la préparation des épices qui est assez long parce qu'il y a le galanga, la citronnelle, le curcuma, la peau de kéfir ou les fruits de kombawa. Vous connaissez, c'est une sorte de...
Très parfumé.
Oui, c'est très, très parfumé. Mmh. C'est comme du citron, mais la peau, elle est un peu ridée. Voilà.
Et tout ça, ça cuit en même temps avec, par exemple, le poisson, si c'est un hamok de poisson?
Non, il faut d'abord préparer cette épice-là, bien l'épiler pour que ça devienne une pâte fine, avec du piment rouge, tout ça. Et il y a un dosage pour combien de poissons, combien d'épices, avec du lait de coco, salé, poivré, sucré. Et après, il faut... mariner un petit peu, un quart d'heure, avant de mettre à la vapeur.
C'est ça, à la vapeur. Donc le secret, ce sont les épices, le lait de coco, qui donne aussi ce côté un peu douxâtre, et puis cette chair de poisson ou de viande extrêmement agréable, parce que tout ça est cuit à la vapeur, donc c'est jamais sec, par définition, le hamok.
Non, non. Le mélange est un peu liquide.
Côté Algérie, alors qu'est-ce que vous avez décidé? Le bourek, le chou farci, le mouton braisé au fenouil, le couscous kabyle aux légumes? Il y a tellement de choix dans votre livre.
Il y a tellement de choix. Je vais vous donner quelque chose un peu de l'Oranie, mais aussi qu'on peut retrouver ailleurs. Mais moi, j'aime beaucoup les poivrons. C'est un légume que j'apprécie énormément et je les fais cuire toujours dans une terre cuite héritée de ma grand-mère, dans un plat en terre cuite rond. Et voilà, il faut griller le poivron ou vous pouvez le mettre au four, mais nous on aime bien le griller sur un feu vif. Vous le laissez un peu reposer dans un sac plastique, ça va, et la peau va se détacher toute seule. On coupe ça en petits morceaux, on râpe la tomate, bien râpée, les tomates bien mûres. Faire revenir une très bonne huile d'olive, ça c'est un ingrédient incontournable et l'huile d'olive c'est vraiment quelque chose que je ramène toujours d'Algérie pour mes amis parce que elle est
ne soyez pas désagréable. Sous-entendu, on est très malheureux ici.
Je mets cette huile, un filet d'huile d'olive, de l'ail, on fait revenir de l'ail dans ce tagine à feu moyen, donc une fois que l'ail est un peu confit mais pas brûlé, juste confit, on met les poivrons, ce qu'on appelle felfla, on fait mijoter longtemps et puis on rajoute en dernier la purée de tomates avec bien râpée, sans la peau, et on fait vraiment à feu moyen longtemps. Et en fait, la magie de ce récipient en terre cuite, c'est qu'il va absorber toute l'eau et il va laisser que vraiment les poivrons bien confits.
C'est vraiment une compotée confite.
Voilà, c'est excellent. Et puis à Oran, on cuisine beaucoup le poisson, l'héritage espagnol. Même les noms de poissons chez nous, ce sont des noms espagnols.
Alors beaucoup de sardines,
beaucoup
notamment.
Beaucoup de sépia, de calmar, de poissons, de grandes pièces aussi. Moi, je fais du couscous au poisson. En fait, c'est la sépia. On a l'impression que c'est dur. Vous demandez à votre poissonnier de vous la couper en lamelles dans une cocotte minute.
Donc c'est une forme de sèche un peu.
Oui, c'est la sèche. Sépia, c'est la sèche. Dans une cocotte minute, filet d'huile d'olive, excellente huile d'olive, un peu d'ail, persil, vous mettez tout en même temps. Vous mélangez bien sel, poivre. Moi, je rajoute toujours du cumin et le cumin aussi, pareil, il faut le moudre soi-même parce que le goût n'est pas pareil, vous ramenez d'Algérie. Vous fermez bien la cocotte, un quart d'heure, sans eau ni rien. Et vous avez une compotée de sépia délicieuse que vous pouvez manger comme ça ou servir sur du pain grillé.
Et tout ça, 15 minutes. Mais qui a dit que la cuisine algérienne était longue et compliquée?
Et cette recette, je peux vous dire que mes amis Claire et Renaud Marca l'ont bien rapporté en Bretagne et tout, ils l'ont donné à tous les amis, toute la famille. Personne n'a fait.
Alors attendez, il y a quand même aussi des recettes galères dans votre livre. Les escargots au thym.
Ah, c'est pas galère, pas du tout. Alors les escargots au thym, on mange aussi des escargots à l'ouest, beaucoup à l'ouest. On fait fuir un peu les nordiques et les sudistes avec les escargots.
Mais ça ne se sait pas du tout, ça.
Mais nous, moi j'adore ça, toute ma famille, beaucoup de mes amis. Et au fait, ce sont des escargots qu'on fait par contre dégorger toute la nuit pour enlever, excusez-moi, la bave. Et quoi qu'elle, pareil qu'elle a des vertus.
C'est la même chose en France, aussi, voilà. D'ailleurs. On fait
le lendemain, on les plonge dans une eau bouillante, mais une eau vraiment détox. Thym, laurier, en fait on a deux thyms, le thym et le thym sauvage, de l'ail, on met même de la verveine des fois pour que ça soit vraiment détox, et on a une soupe de la tomate, on a une soupe d'escargots, et puis voilà, on mange des escargots comme ça, on peut les faire aussi avec du riz ou de la pomme de terre, mais on est très friand des escargots dans l'Oranie, je suis désolée, mais vous aimez aussi en France?
Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours très bien perçu avec ce...
Bah, vous avez un voisin.
Voilà, exactement. Des desserts, alors les pâtisseries, alors est-ce que là, justement, vous vous retrouvez vraiment dans l'ombre du Maroc avec les fameuses pâtisseries marocaines?
Je ne pense pas.
Vous tirez votre épingle du jeu?
Non, franchement, moi je trouve qu'il y a certaines similitudes, comme les cornes de gazelle, comme la...
Donc à base de pâte d'amande, enfin de purée d'amande, de sucre glace.
Il n'y a pas de secret, les Ottomans... Ils sont arrivés avec des choses dont, donc, sans parler de la tenue vestimentaire, de beaucoup de choses qu'on a gardées en Algérie, il y a aussi les amandes et les baklawa, par exemple, les cornes de gazelle, les dziriyet, tout ce qui est à base d'amandes et de pâtes un peu. Vers le sud, ils n'ont pas les mêmes gâteaux que vers le nord, donc vraiment, c'est vraiment une imprégnation ottomane.
Alors, votre cuisine est largement dominée par le blé, au Cambodge, c'est dominé par le riz, au Brésil...
Manioc.
Voilà, ça c'est pour la colonne vertébrale, ce qui doit tenir au corps, puisqu'à l'origine, toutes ces cuisines étaient faites pour des habitants qui travaillaient dehors, comme dans toutes les cultures du monde entier. Dans vos cuisines respectives, méconnues, vous avez tous des soupes.
Tout à fait, oui.
Au Cambodge.
Oui, on a la fameuse soupe qu'on appelle Nom Ban Chok. C'est la vermicelle de riz avec le poisson ou poulet haché, avec du lait de coco et des légumes. Donc ça fait un bol complet, un repas complet. Il y a des légumes, il y a vermicelle, il y a de la viande.
Ouais. Bon, en Algérie,
Alors, il y a la chorba, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a la harira, beaucoup croient que ça vient du Maroc, mais c'est aussi algérien. À l'ouest algérien, on a une harira, elle est assez épaisse. Dans les ingrédients, c'est plus ou moins pareil. Beaucoup de légumes, beaucoup de tomates, beaucoup de coriandre aussi. Et un levain à la fin qu'on rajoute, que ce soit dans l'Oranie, mais vers le sud, ils rajoutent du blé complet concassé. Mmh. Et ça donne cette onctuosité, c'est délicieux. On en fait vraiment dans l'ouest et dans le Sahara algérien. Et on accompagne le mois de Ramadan, c'est connu. La harira et la chorba sont très connues. On la mange généralement avec des bourreks, qui sont des feuilles de dioul farcies ou de viande de poulet ou de viande d'agneau parfumée à la cannelle et à la coriandre pareil. Et
c'est voilà. Dur de vous écouter, hein, le ventre vide. Mais alors finalement, avec les modes de vie urbains, la vie moderne, qu'est-ce qui a déjà changé dans vos cuisines? Quel retour en arrière impossible pour vous les uns et les autres au Brésil?
C'est malheureux parce que la jeunesse aujourd'hui mange, c'est triste, c'est des plats cuisinés, c'est une influence peut-être américaine ou moderne avec les fast-food et la cuisine traditionnelle. Ça devient exotique, bon, ça devient quelque chose de curieux.
Alors un cri du cœur pour vous, Celso, pour la sauvegarde de votre cuisine.
Ah oui, il faut manger plus sainement quand même. Il faut manger des fruits et légumes, il faut manger les plats cuisinés, les plats mijotés. Je pense que c'est... Il n'y a pas photo.
Et retrouver un peu de temps. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, tous les trois, Aurida Nekash, Sarah Nili et Celso de Freitas.
Avec plaisir.
Dans quelques instants, je vous propose un reportage. Alors vraiment, la découverte d'autres cuisines, peut-être avec des points communs d'ailleurs, vous nous direz ça. On partira à la découverte des cuistots migrateurs. Ça sera le sujet du reportage d'Alice Milo. C'est le nom d'une start-up parisienne qui embauche des réfugiés pour préparer des plats typiques de leur pays. Louis Jacquot et Sébastien Prunier, les deux fondateurs, ont réuni autour d'eux 6 cuisiniers venus des 4 coins du monde. Pour le moment, l'entreprise a surtout une activité de traiteur qui fournit les buffets, les cocktails, des événements de région parisienne. Mais ils comptent bien ouvrir un restaurant dans les mois qui viennent. Direction tout de suite leur cuisine, située à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Alice Milo a rencontré Asna, syrienne, Fariza, tchétchène, Rachid, iranien, et bien sûr Louis Jacquot, le cofondateur des cuistots migrateurs.
Je vais en chercher un pour que ça marche. Alors on a 2 buffets là dans la semaine qui arrive, donc on fait 3 cuisines, donc Syrie, Iran et Tchétchénie. On a par exemple du kashk bademjan, qui est un caviar d'aubergine, mais différent du caviar d'aubergine qu'on peut trouver par exemple dans les restaurants libanais, puisque là on a une sorte de yaourt fermenté qui s'appelle du kashk, un petit goût de parmesan, donc ça donne quelque chose de très différent. Rachid va faire aussi du koukou sabze, qui est une sorte d'omelette aux herbes, donc avec de la nette, du persil, de la coriandre, de la menthe, etc.
Comment tout ça a commencé en fait ?
C'était en octobre l'année dernière, vraiment à parler de la crise des réfugiés. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des cuistots migrateurs, donc avec comme ambition de faire bouger les lignes des cuisines du monde à Paris, faire découvrir des cuisines méconnues, mal connues, et le faire vraiment de manière authentique, puisque là, quand on fait de la cuisine syrienne, c'est une syrienne qui fait les plats avec lesquels elle a grandi. Rachid d'Iran, il fait ses plats iraniens, ce qui n'est pas toujours le cas dans les restaurants de cuisine du monde à Paris. L'exemple le plus parlant étant sans doute les restaurants de sushi qui sont finalement très peu tenus par des Japonais, plutôt par des Chinois effectivement. Même la cuisine syrienne finalement qui est historiquement très proche de la cuisine libanaise. On arrive à proposer des choses que les gens ne trouvent pas ici dans le restaurant libanais, qui proposent tous pareil. Alors que la cuisine libanaise et la cuisine syrienne, donc qui sont très proches, ont beaucoup plus de choses que du houmous, du caviar d'aubergine, enfin en fait le keshke, donc les yaourts au boulgour, enfin il y a plein de choses qu'on peut découvrir. Donc c'est voilà, découvrir des nouvelles choses et rencontrer nos cuisiniers dans la mesure du possible, c'est à chaque fois de créer un moment de rencontre et échanger de regard sur la crise migratoire. Très rapidement, en fait, on a eu des demandes pour des buffets, des cocktails pour 150, 200 personnes, voire plus. On s'est dit, bah, là, il faut quand même qu'on recrute des gens qui sont pas mal qualifiés. Alors, c'est pas tous des professionnels. Et donc, voilà, ça s'est fait un petit peu au hasard des rencontres en sélectionnant les meilleurs cuisiniers qu'on pouvait. Quand on a rencontré Fariza, qui est notre cuisinière tchétchène, ça faisait 3 ans qu'elle était là. Et elle nous a dit, en pleurant, presque, qu'on était les premiers Français, en fait, qui s'intéressaient à sa cuisine. Ça faisait 5 ans qu'elle était là. Tout ce qu'elle faisait, c'était du ménage à droite à gauche au noir, quoi. Elle a eu l'occasion de montrer ce qu'elle savait faire et de présenter aux clients la cuisine tchétchène que finalement personne ne connaît, quoi. Et évidemment, la grosse ambition qu'on a, c'est l'intégration de nos cuisiniers en valorisant leurs compétences, leurs talents, les aider à retrouver confiance, dignité dans ce qu'ils savent faire, dans ce qu'ils sont et voilà, s'insérer dans la société française, puisqu'on s'est rendu compte que même s'ils sont là depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains, souvent ils sont enfermés dans leur communauté, ils parlent pas la langue ou très peu. On va les aider à s'intégrer socialement, professionnellement, on parle en français avec eux, ils viennent avec nous sur les événements, ils présentent leurs plats, les gens discutent avec eux. Le cœur du projet, c'est aider à l'intégration de nos réfugiés.
Allez. Vous êtes en train d'hacher du persil ?
Oui. Vous allez faire quoi avec ?
Je vais faire une salade de olives.
C'est un plat qui vient d'où ?
De Syrie.
Vous êtes syrienne ?
Oui. Et c'est ça, je crois, le problème, parce qu'il y a des gens qui disent, voilà, la cuisine libanaise, c'est la même chose que la cuisine syrienne. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a une grande différence entre les deux. On connaît quelqu'un qui a venu chez nous, les cuistots, et il a goûté le mhammara, il dit, c'est un Libanais. Il dit, j'ai jamais goûté ça. Et ne sait même le nom de ça. Même en Syrie, on trouve entre Damas et Halab et Hamas une grande différence entre les plats et les entrées.
Chez vous, vous étiez déjà dans la cuisine ?
Pas beaucoup. J'ai appris la cuisine de la famille, de ma mère, de ma belle-mère. Parce que nous, chez nous, les Arabes, depuis on est petits, il faut qu'on fait les plats. Parce qu'un jour, quand on est marié, on connaît tout. Les entrées, les plats, la vie... des mariés, c'est ça.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous de travailler au cuistot migrateur ? Ça fait combien de temps que vous travaillez ici ?
C'est le 4e mois, je crois. C'est bien pour moi parce que ça fait à peu près en 2014, j'ai arrivé ici. J'ai essayé de travailler, j'ai pas trouvé. C'est difficile parce que nous, en Syrie, on aime travailler. Ça veut dire mon mari travaille. Moi, parfois, j'étais surveillante. Parce que vraiment, on a des aides. Mais nous voulons le travail, nous voulons pas l'aide. Je fais la cuisine ici et j'aime faire la cuisine parce que toujours j'ai des souvenirs de mon pays. Là-bas, j'ai une grande maison. J'ai des chambres pour les petits, j'ai tout. Ici, on habite dans des petites... C'est 35 mètres pour 5 personnes. Ça, c'est dur. J'ai les 3 garçons et toujours il y a des bombardements. Tous les jours, j'attends le bus. Qu'il vient de l'école, possible mes enfants vont arriver, possible.
Vous aviez peur chaque jour que le bus n'arrive pas ?
Oui, c'est ça. C'est dur de vivre comme ça, on ne peut pas rester. Et j'espère que je retourne un jour chez moi.
T'en veux combien, Rachid ?
Ça sent bon, hein ?
Oui, vous pouvez goûter.
Vous avez les mains dans les olives, là.
Ouais. Le pouvoir de la cuisine... Ourida Nekash, Sarah Nili, Celso de Freitas.
Je connais un peu, moi, cette situation d'être loin de chez soi, d'avoir des pays bombardés, des pays... c'est assez particulier. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, en France du moins, faire connaître autre chose que ce qu'on entend sur son pays. C'était mon cas quand j'étais étudiante à Besançon en 94, où le pays était en pleine guerre civile.
Au cœur des années 90.
Oui, et c'est vrai que faire connaître un peu autre chose de l'Algérie, des terroristes, de l'Algérie, des, C'était très important pour moi. Et déjà là, juste à mon niveau d'étudiante de 20 ans, je voulais faire connaître autre chose qui se passait.
Ça vous a aidé la cuisine ou pas dans ces moments
J'ai cuisiné pour beaucoup de personnes quand j'étais étudiante parce que j'étais logée chez les Clarisses et elles faisaient des dîners pour les SDF. Et une fois par semaine, je faisais un couscous. Je ne savais pas du tout faire, hein, mais tout le monde trouvait ça très bon. Je crois que j'ai fait beaucoup de ratage, mais bon. Et je faisais découvrir un peu les couscous algériens de chaque, déjà à l'époque. C'est vrai que ça me faisait du bien de montrer autre chose de l'Algérie.
Sarah Nili.
Moi, j'ai le même pressentiment que ma collègue. Et j'essaye de faire connaître le Cambodge en oubliant tout ce qui s'est passé.
Le génocide, mais...
Oui, je ne voulais pas en parler ici. Et c'est à travers cet art culinaire que je veux faire connaître le Cambodge autrement.
C'est fou comme finalement les saveurs, les épices, ça fait remonter à la fois les bonheurs et les douleurs alors.
Oui, c'est vrai.
Merci de nous avoir régalé avec vos mots, avec vos phrases, avec vos recettes. Merci à tous les trois. Aurida Nekash, vous publiez Algérie gourmande avec Claire et Renaud Marca. C'est un très beau livre. Merci. Sarah Nili, vous êtes au restaurant La Mousson à Paris et puis vous avez publié La Table du Cambodge pour faire connaître la cuisine cambodgienne et celle des Freitas. Il suffit tout simplement, si on a la chance d'habiter à Paris ou de passer par Paris, d'aller faire un tour par votre cuisine au Gabriella.
Merci.
Ça, situé dans le 9e arrondissement à Paris. Merci à tous les trois. Demain, 7 milliards de voisins, les nouveaux pouvoirs de la parole. Quelle nouvelle technique pour l'art oratoire ou bien quelle nouvelle technique pour les vidéos qui cartonnent. Merci à vous tous, les voisins, les voisines de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même endroit.